Jamais un maton s'est permis de mettre une gifle.
Ouverture. Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé, humilié, déshumanisé.
Bonjour.
Bonjour.
Salut à tous.
Bon, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Papillon et c'est une surprise. Aujourd'hui, nous sommes en direct à 10h30 ce vendredi 12 mars. Donc, Papillon, l'émission qui parle des prisons, du dedans, du dehors, des liens qu'il y a entre les uns et les autres. Et on attend vos témoignages et tout ça. Donc, au sommaire d'aujourd'hui, nous avons dans un premier temps, on va parler un petit peu de thunes. Donc, l'argent des mandats, l'argent du travail. Puis, on va écouter une interview qui a été réalisée à Roanne devant le centre de détention en février dernier, lors de l'incarcération d'une militante basque à Roanne. Puis, on terminera par la rubrique « Ça m'énerve ». Et bien sûr, nous aurons le petit agenda. Donc, bonne émission à tous, bonne écoute à toutes. Allez, on y va.
Voilà, donc, moi, pour cette émission, donc, je voulais parler de fric en prison. En gros, là, je me suis penchée là-dessus à partir d'une question très concrète. C'était, des fois, on envoie des mandats en prison à des prisonniers pour les aider un peu. Et selon la quantité de fric qu'on envoie, s'il y en a une certaine quantité, l'administration prélève dessus et normalement, s'il y a une petite quantité, l'administration ne prélève pas dessus. Et en fait, c'est super compliqué de comprendre un peu tout ça. Et un jour, un pote me dit, moi, ce mois-ci, je n'ai reçu que 45 euros et on m'a prélevé 13 euros dessus. Donc, c'était un peu la misère. Ouais. Donc, j'ai essayé un peu de me renseigner sur tout ça. Et... en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on se renseigne, comme je l'ai fait sur Internet, les articles de loi, les réglementations, le guide du prisonnier, de l'OIP, etc., c'est aussi des choses théoriques, c'est les règlements, c'est ce qui est écrit sur papier. Et à savoir qu'on constate souvent qu'il y a un écart dans la réalité. Il y a plein d'exemples divers et variés qui sont différents. Donc moi, je vais dire un peu des choses générales qui peuvent sembler théoriques et réglementaires. Et puis si vous avez des expériences différentes, n'hésitez pas à nous en faire part et pour qu'un jour, on creuse un peu plus ça. Donc, en gros, les détenus, qu'est-ce que c'est leurs ressources en argent? Comment ils reçoivent de l'argent? Principalement par les mandats. Donc c'est de l'argent qui est envoyé par la poste. Donc par les proches, les amis, la famille, qui leur permettent bien souvent de survivre, quoi, plus ou moins. Éventuellement, ils peuvent gagner de l'argent en travaillant ou en faisant des formations. Donc on verra tout à l'heure que ce n'est pas non plus la panacée de travailler en prison. Et donc il faut savoir que les aides sociales, quand on entre en prison, au bout d'un ou deux mois, elles sont coupées. Donc on ne touche rien d'autre que ça. Les détenus considérés indigents par la prison... c'est-à-dire qu'ils ont des très, très faibles revenus. sont parfois un petit peu aidés, quoi. Mais c'est vraiment de l'ordre de la miette de pain.
C'est des assos caritatives, non, qui filent un peu de thunes
Alors ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Pareil, il faudrait creuser pour voir très concrètement ce que c'est. Le statut indigent, déjà, c'est compliqué. Il est défini d'une manière assez compliquée. Et après, c'est soit l'administration, soit des associations caritatives qui donnent 2-3 trucs, quoi, des brosses à dents,
ouais.
Des trucs comme ça. Et donc, et l'argent dépensé par le détenu, qu'est-ce que c'est? Parce que nourri, logé, oui, mais bon, pas vraiment, quoi. Déjà, pour pouvoir manger un minimum ou avoir des cigarettes, des choses comme ça, ou pour s'acheter un peu plus que le strict minimum de bouffe dégueulasse qui est servi. Donc, les détenus, ils cantinent, c'est-à-dire ils achètent à un espèce de magasin, ils commandent à un espèce de magasin interne à la prison, ou ils commandent à la Redoute, je crois. Enfin bref, c'est des choses qui sont gérées par l'administration. Et sinon aussi, ils dépensent de l'argent pour participer à l'association socio-culturelle et sportive de la prison. Donc ça, j'y reviendrai. Et entre autres, pour louer leur télé, leur frigo, s'ils en ont. Voilà. Donc, les prisonniers, en fait, quand on rentre en prison, on ne dispose pas de son argent. Son argent qu'on a sur nous ou quoi, il nous est pris. Et la prison nous ouvre un compte nominatif qui est géré par la prison et qui comporte 3 parties. Voilà, donc c'est là que tout se complique un peu. Donc, la part disponible, la part réservée à l'indemnisation et aux pensions alimentaires et le pécule de libération. Donc, la part disponible, c'est ce dont le détenu peut jouir et ce qu'il peut utiliser comme il veut. Bon, comme il veut, c'est quand même à chaque fois qu'il veut utiliser du fric, il doit demander au gestionnaire d'acheter tel truc, de donner de l'argent à telle personne, machin, enfin... C'est interdit d'avoir du fric à soi et d'en faire ce qu'on veut, quoi. La part réservée à l'indemnisation et aux pensions alimentaires, c'est à partir du moment où on est condamné et qu'on doit payer des amendes, qu'on doit indemniser les parties civiles, etc., une partie de l'argent du détenu va sur cette part pour commencer à payer ses amendes, etc. Et les pensions alimentaires, c'est la même chose. Et le pécule de libération, c'est la troisième partie. C'est un peu d'argent qui est mis de côté pour quand on sort, pour pas sortir avec zéro. Donc, en gros, ça, tout est géré, tout est réglementé. En fait, on fait pas ce qu'on veut. Et en gros, si le prisonnier reçoit moins de 200 euros par mois, donc ça, c'est ce qui est inscrit dans la loi. Si le prisonnier reçoit moins de 200 euros par mois, ça va tout dans la part disponible. Et donc, il l'utilise pour lui, pour sa vie quotidienne, etc. Pour les fêtes, ces fêtes, il a droit à 2 fois plus, donc jusqu'à 400 euros. Et par contre, s'il dépasse ces 200 euros mensuels, ce qui en plus va être réparti en fait dans la part réservée à l'indemnisation et aux pensions alimentaires et dans le pécule de libération. Donc selon des calculs et des pourcentages savants dans lesquels on peut facilement se perdre. Mais en gros, si on reçoit plus de 200 euros, entre 20 et 30% du surplus va aller pour l'indemnisation et les pensions alimentaires. Et 10% du surplus va aller au pécule de libération. Et le reste va retourner sur la part disponible. Alors j'espère que vous avez suivi, c'est pas simple. Donc imaginez, quand vous recevez du fric en prison, comment vous devez vous arracher les cheveux pour savoir où est passée une partie, si vous n'êtes pas fait enfler à un moment parce que vous n'avez pas forcément confiance, etc. Et enfin, là où je voulais aussi en venir, c'est que sur cet argent que les détenus reçoivent, donc soit par le travail, soit par les mandats, il y a une partie qui est prélevée pour les associations socio-culturelles et sportives des prisons. Donc c'est des structures plus ou moins indépendantes, mais qui gèrent des choses en prison. Donc déjà la première question, c'est que je me demandais si cet argent qui était prélevé pour les associations, si c'était volontaire ou non de la part du détenu, s'il donnait l'accord ou si on lui prenait comme ça. Et en fait, ces associations, qu'est-ce que c'est? En fait, leur rôle en majeure partie, c'est de gérer l'allocation des télés et des frigos. Donc, c'est de distribuer les télés et les frigos selon les demandes et de ramasser les sous de la location. Il faut savoir que selon les prisons, ça peut être très, très cher de louer une télé. Je ne sais plus combien c'est, mais ça peut aller à plusieurs dizaines d'euros par mois, voire beaucoup plus, quoi. Et donc, en fait, les énormes bénéfices qui sont faits sur ces locations par les associations socioculturelles et sportives sont censés être réinvestis dans des activités à destination des prisonniers. Et on sait qu'en général, ces activités, c'est pas grand-chose. C'est un peu réduit à une peau de chagrin. C'est pour très peu de prisonniers. Et en fait, il y a des gros manques de moyens pour ces activités, quoi. Mais la question, c'est quand même, on aimerait bien, nous, creuser un peu ça et savoir comment ça se passe concrètement. Que font ces associations, par exemple à la TALO, qu'est-ce qui est concrètement proposé, à combien de détenus, combien d'argent est prélevé sur le compte des prisonniers, est-ce que c'est volontaire ou pas, est-ce que les intervenants qui interviennent en prison sont payés par des subventions, par la paix ou par ces associations, etc. Voilà, c'est la question. C'est une question qui se pose sur l'argent des prisonniers qui sont déjà bien en galère et qu'on fait parfois encore plus galérer.
Je voulais rajouter, là, tu parlais de au-delà de 200 euros, il y avait une partie de la thune qui partait aussi pour la sortie, quoi. Mais 200 euros, c'est déjà vachement, c'est vachement gros comme ça. Mais en fait, il y a peu de détenus, peut-être, finalement, qui ont de la thune quand ils sortent, quoi. Parce que 200 euros par mois, c'est pas tout le monde qui doit les toucher, quoi.
Oui, surtout que la vie en prison est plutôt chère.
Ouais.
Et si les 200 euros par mois ils viennent des mandats des proches, c'est quand même beaucoup de travailler et d'envoyer 200 euros à son fils ou à son chéri tous les mois, quoi.
Et puis tu parlais de la bouffe, mais il y a aussi tout ce qui est hygiène, quoi. Le savon, machin, ouais. les mecs, ils doivent se le cantiner, quoi.
Alors, l'administration est censée fournir au strict minimum brosse à dents, dentifrice et savonnette, je crois.
Ouais.
Et PQ. Ah bon. Et donc, je voulais juste dire quand même, si ces questions vous passionnent, ou si jamais vous voulez creuser ou tout ça, c'est les textes et les infos précises que j'ai trouvées. C'est dans le guide du prisonnier de l'OIP de 2004. Il est un peu vieux. Je crois qu'il n'y en a pas eu de nouveau depuis. Et surtout, attention, c'est passionnant. Dans les articles D319 à D334 du Code de procédure pénale. Donc D319, D334. Et voilà, moi j'en ai fini pour ces histoires de mandat, de fric et tout ça. Et on va encore parler de fric.
Ouais, alors on va enchaîner sur le travail en prison. Alors ce qui nous a donné envie d'en parler, c'est que récemment, il y a un riverain, en fait, qui a une petite entreprise sur l'île, a reçu ce mail du responsable de la section travail et emploi de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, Jean-Gabriel Cuvillez, pour pas le nommer. Alors je vais vous lire ce courrier qu'il a envoyé aux entreprises de Lille. Lille, lundi 25 janvier 2010. Chère madame, cher monsieur, savez-vous que la prison est aussi une entreprise? Une entreprise qui dispose de 200 000 m² d'ateliers, emploie quotidiennement 10 000 personnes et fait réaliser aux sociétés qui interviennent ou passent leurs commandes un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions d'euros. La prison a acquis un réel savoir-faire industriel qu'elle met au service d'autres entreprises. Vous pouvez assurément lui confier vos travaux de sous-traitance, d'activités techniques et industrielles de main-d'œuvre. Parce que rester compétitif implique de se recentrer sur ses métiers, bénéficiez-vous aussi d'une délocalisation de proximité, réactive, flexible, aux conditions financières avantageuses. Parce que notre mission est de favoriser l'insertion des personnes dans la vie active au terme de leur détention, parce que vos impératifs d'entrepreneur sont la performance et la réussite, nos équipes sont à votre écoute pour gérer et vous aider à développer vos productions selon vos critères particuliers de qualité et de délai. Dans chaque région, des collaborateurs de l'administration pénitentiaire étudieront avec vous la solution la plus adaptée à vos productions. La présentation interactive accessible via le lien ci-dessous vous indiquera tous les contacts utiles et vous présentera l'ensemble de nos dispositifs. Restant à votre disposition pour toute information, nous vous prions d'agréer, madame, monsieur, l'assurance de nos sentiments distingués. Donc voilà, alors parallèlement et à peu près toujours à la même période fin janvier, encore plus cynique, en fait cette fois c'est c'est la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon qui a envoyé donc aux entreprises lyonnaises une sorte de petit dépliant un peu fait sous le modèle d'un jeu de société inspiré du Monopoly. Et en fait, sur les quatre coins de ce petit dépliant, il y a écrit ces choses. Alors, effectif insuffisant, ne manquez pas une commande, rendez visite à la prison. Travaux urgents, ne vous laissez pas déborder, avancez vite jusqu'à la prison. Commande imprévue, pour livrer à temps, passez en priorité par la prison. Budget serré, ne bloquez pas vos projets, passez plutôt par la prison. Voilà, donc je pense que ça se passe de commentaires. Alors, faut quand même savoir, parce que bon, pour agrémenter tout ça, en fait, il faut savoir qu'en moyenne, les détenus, ils touchent, bon, c'est une moyenne nationale, en gros, 3,90 € brut de l'heure. Et qu'en plus, souvent, les entreprises déterminent une cadence, c'est-à-dire un rendement minimum. C'est-à-dire, par exemple, au hasard, il faut faire 1000 pièces en une heure. Et si vous ne les faites pas, vous êtes pris au prorata. Donc, vous n'êtes même pas sûr de toucher ces 3,90 €. Donc, on comprend l'intérêt qu'elles ont à délocaliser, comme ils le disent, parce que bon, ils parlent de délocalisation. Ça, c'est clair, à délocaliser en prison. Alors, faut savoir aussi également que les détenus n'ont aucun contrat de travail et que du coup, si par exemple un détenu veut se plaindre de ses conditions de travail, comme ça a été le cas par exemple en 2004, il y a une détenue qui s'appelle Violette Martinez qui était détenue à la prison des Baumettes, qui a saisi le conseil des prud'hommes pour ça justement, pour se plaindre de ses conditions de travail et de sa rémunération. Et du coup, les conseillers, les prud'hommes ont répondu qu'ils étaient incompétents en disant que sans contrat de travail, la détenue n'était nullement liée à l'entreprise qui l'employait. Donc voilà. En plus, oui, donc voilà, on comprend aussi pourquoi, justement, dans la loi pénitentiaire qui est passée récemment, là, la dernière, il y avait un petit volet là-dessus sur justement peut-être éventuellement faire un contrat de travail aux détenus, etc. Ce que les sénateurs, je crois que quand c'est passé au Sénat, les sénateurs ont refusé qu'il y ait un contrat de travail pour ceux qui travaillent en prison. Alors, il faut rajouter aussi que bon, c'est quand même les entreprises, alors malgré le fait qu'elles avouent difficilement qu'elles sous-traitent en prison, ça donne quand même une assez mauvaise image de l'entreprise. Par exemple, il y a deux journalistes qui ont récemment fait une enquête sur le travail en prison, qui ont essayé de contacter plusieurs entreprises. Alors, les entreprises, ça va de toutes les grandes entreprises françaises, hein, EADS, BIC, Agnès B, etc., La Redoute et compagnie. Toutes ces entreprises, voilà. Et du coup, ouais, il y a une mauvaise image quand ils ont essayé de contacter l'entreprise BIC, par exemple. Ils ont dit non, mais nous on a fait ça pendant un moment, mais on a arrêté parce que voilà, etc. Alors il se trouve que quand ces deux journalistes ont contacté le service du travail de la maison de Fleury-Mérogis, que c'était à Fleury-Mérogis, ils ont dit que BIC continuait à sous-traiter en prison. Donc voilà, il y a aussi d'autres raisons qui poussent les entreprises à profiter de cette main-d'œuvre flexible, voilà.
Bon marché aussi, très bon marché.
Exactement, c'est que, alors en fait, comme disait Elsa, c'est que les détenus peuvent être forcés à travailler, plus ou moins contraints et forcés, parce que voilà, tout simplement, quand on est indigent, il faut cantiner, voilà, c'est que pour les raisons que disait Elsa tout à l'heure. Et puis, il peut y avoir aussi plusieurs intérêts à certains détenus pour travailler, comme par exemple, petit truc du quotidien, prendre une douche hebdomadaire, chose que, voilà, en général, il n'y a que quand tu travailles que tu peux prendre une douche hebdomadaire.
Ouais. Par exemple, à la Talo, quand tu es au bâtiment des travailleurs, tu es quand même dans une cellule, bon, c'est le strict minimum, mais qui a des vitres et de l'eau chaude. Et dans les autres bâtiments, t'as pas forcément des vitres. Enfin, disons que tes vitres peuvent être cassées et l'eau, elle est froide. Voilà. Forcément, ça donne envie d'aller travailler, quoi.
Ouais, il y a aussi des trucs sur le régime de détention en général. Ouais, régime de détention un peu plus cool au bâtiment des travailleurs. Il y a aussi des trucs tout cons, c'est quand t'es en maison d'arrêt et que t'es en cellule 22h sur 24. Voilà, ça te permet aussi de sortir de ta cellule, même si ça fait pas rêver d'être dans un atelier. Mais bon, voilà, c'est toujours ça. Donc voilà. Alors il y a aussi un dernier truc par rapport à ça, c'est que c'est que ouais, souvent le ouais, voilà, dans le courrier là on a vu souvent ils parlent de réinsertion. Alors le prétexte de la réinsertion, malgré tout, ils arrivent quand même à le placer. Là, le celui de Lille, là, il arrive quand même à le placer à un moment. Oui, oui, c'est bien aussi. Bon, c'est se donner bonne conscience pour réinsérer les détenus, etc. Or, il se trouve que bon, le travail en prison, déjà, en général, c'est vraiment de la main-d'œuvre super sous-qualifiée. Donc, bon, au niveau quand on sort, je vois pas bien ce que ça peut apporter de plus à celui qui veut éventuellement se réinsérer, trouver un travail. Et qu'en plus, comme la prison, ça reste un stigmate sur les gens, qui reste très longtemps, c'est que la majorité des détenus, je pense qu'ils préfèrent, et même, enfin bon, il y a une enquête qui a été faite là-dessus, après je vais pas me perdre dans des chiffres, mais bon, la majorité des détenus, quand ils sortent, évitent de dire, quand ils recherchent du boulot, évitent de dire qu'ils sont passés par la tôle, parce que forcément, ça donne pas envie à un employeur, vu l'image du tôlard, donne pas forcément envie à un employeur de recruter quelqu'un. Donc en général, comme on dit pas qu'on est passé par la prison, on dit pas forcément qu'on a travaillé, quoi. Donc voilà, après, c'est ce petit volet de la réinsertion. Et du coup...
Oui, on a reçu... Enfin, je voulais revenir un peu là-dessus aussi, en disant... ouais, peut-être les détenus, ils souhaitent travailler, tout ça, mais c'est aussi la paix, quoi, qui décide qui travaille et qui travaille pas. Il n'y a pas du boulot pour tout le monde,
bien
plus.
Sûr, bien sûr.
Et c'est aussi... ça peut être une sanction de dire, attends, toi, tu m'as mal parlé, et puis bah, tu n'iras pas à l'atelier, quoi. Donc, c'est quand même... les matons et les chefs matons qui décident de qui va
en
plus, atelier et qui va pas.
En plus, vu qu'ils envoient ces courriers, c'est qu'ils aimeraient qu'il y ait vachement plus d'entreprises qui s'installent en prison. D'ailleurs.
Ouais, bah parce que comme on est dans cette période de crise, finalement, ça arrange. Voilà. Et puis les banques, comme ça, elles n'ont pas à prêter de thunes.
Puis, sachant, oui, et puis en plus, souvent, les prisons, c'est en général... par exemple, la prison de Corbat, l'État gère que les trucs régaliennes, c'est-à-dire que la surveillance. Et comme après, c'est des entreprises privées qui gèrent le reste, voilà, ça leur permet aussi de leur apporter un peu de sous.
Et puis, on a eu des témoignages il y a quelques temps de personnes qui étaient en atelier à la Talo et qui étaient justement, là, comme tu disais, au rendement. Ils devaient remplir, ils devaient faire un certain nombre de pièces dans un temps donné. Et finalement, le type, enfin, ou plusieurs mecs, ils allaient vachement plus vite que ce qu'on leur avait demandé. Et du coup, ils se faisaient vachement... Enfin, ils arrondissaient bien
plus
leur fin de mois.
Prévu.
Voilà, plus de sous que prévu. Et du coup, on a dit, oh là là, il ne faut pas qu'ils gagnent trop de sous. Et leur contrat, c'est pour ça qu'il n'y a pas de contrat non plus. Mmh. On leur a dit, bon, ben maintenant, basta, tu ne vas plus en atelier. Sinon, ils risquaient de se faire un petit pécule intéressant. Ouais. Et c'était pas apparemment, c'est aussi une sanction... faut pas que les mecs ils gagnent trop de sous, quoi. Oui.
Et aussi ce qui est dit dans le livre de l'enquête des deux journalistes que j'ai cité tout à l'heure, enfin que j'ai pas cité d'ailleurs.
Non, c'est Gonzague et
voilà.
Rambaud.
Alors en fait, ouais, et il y a notamment ce témoignage-là du copain Latalo, mais il y a aussi eu d'autres témoignages qui disaient qu'en gros le salaire des détenus n'est pas plus élevé parce que c'est une question de paix sociale entre matons et prisonniers, parce que souvent les matons voient d'un mauvais œil que les détenus soient trop payés, en fait. Voilà, ils le voient d'un mauvais œil. Et, voilà, et ça me permet de rebondir justement sur tous ces syndicats de matons, là, CGT, FO, etc., qui sont censés, à l'intérieur comme à l'extérieur, représenter les droits des salariés, etc. Jamais on a entendu un syndicat de matons, et c'est peut-être aussi pour cette raison, se plaindre. Alors eux, pour leur salaire, pour leurs effectifs, ils la ramènent souvent, mais jamais on les a entendus gueuler sur le salaire des détenus. En tout cas, s'il y en a, c'est très minoritaire. Et moi, personnellement, je ne les ai jamais entendus. Après, voilà,
c'est
que je peux
sûr
me tromper,
que...
mais voilà, ils ne sont jamais bougé le cul pour le droit, déjà pour les conditions de travail et pour les rémunérations des détenus.
Oui, oui, on est bien voilà. D'accord.
Ouais, alors, ouais.
Non, en fait, moi, je voulais ajouter un truc qui relie en fait, les deux sujets dont on vient de parler. C'est... une dame qui s'appelle Anne-Marie Marchetti, qui avait fait un colloque, enfin participé à un colloque en 2004. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, elle parle de la pauvreté en prison. Et justement, elle explique, bon, déjà, elle dit, c'est pas n'importe qui le public de la prison, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pauvres. Et c'est pas parce que les pauvres sont plus délinquants, mais parce que les délinquants pauvres sont plus facilement envoyés en prison que les autres. Donc voilà, déjà, elle part de ce constat. Et en plus, elle explique que la vie en prison est plus chère qu'à l'extérieur et qu'en plus, avoir des ressources en prison, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'à l'extérieur. Et en gros, en fait, elle explique que la prison, c'est une institution pour pauvres qui, en plus, appauvrit les gens qui y sont et qui en ressortent encore plus pauvres et en galère. Et en plus, elle finit par expliquer un peu ce dont on a parlé, c'est que avoir du fric en prison, ça donne plus de droits et plus de pouvoir face au maton, face à l'administration. Et plus on en a, plus on a quand même d'indépendance et de pouvoir. Et moins on en a, plus on est dépendant et soumis, et on risque d'être soumis, etc. Quoi. Donc,
c'est bon. Dehors.
Bravo.
Dehors, c'est la même.
Pour donner un peu un chiffre aussi, on avait rencontré une dame dont le mari faisait le ménage en prison, en tant que détenue. Hein, et elle nous disait qu'il gagnait 120 euros par mois. Et en fait, il faisait tout le ménage dans les couloirs, les escaliers, enfin tout l'entretien. 120 euros par mois, c'était son salaire, sa rémunération. Donc, il faisait pas grand-chose avec ça. Il était obligé quand même de lui envoyer de l'argent. Et elle avait pas de moyens, quoi, cette nana. Mmh. C'est vraiment la misère. Ouais. Donc, c'était pour revenir un petit peu sur les idées préconçues qu'Anto, tout est beau et rose, nourri, logé, comme on disait.
Ouais. Dit que sa mère, la réinsertion.
Finalement, vous n'avez pas cité l'ouvrage, en fait.
Ouais, alors oui, voilà.
Tu veux que je cite ?
Ouais, vas-y. Allez, vas-y.
Ça fait jamais de mal de lire. Donc, pour ceux qui ont la possibilité.
Ça fait même
de trouver,
du bien.
Ouais, ceux qui ont la possibilité de trouver l'ouvrage, l'ouvrage de, donc, des deux chercheurs.
Ouais, enfin, on s'en
fout. S'appelle Le travail en prison, enquête sur le business carcéral de Gonzague Rambeau avec Nathalie Romer et ses auditions Autrement.
Ouais, et je précise juste sur ce livre. Bon voilà, c'est une enquête journalistique, etc. Mais elle est quand même, enfin, il est quand même bien dans le sens où il y a quand même beaucoup, beaucoup de témoignages de détenus. Et voilà, tout simplement, c'est toujours bien quand les principaux intéressés en parlent eux-mêmes parce qu'ils le font bien. Voilà.
Bon, on a beaucoup, beaucoup parlé. On va écouter de la musique, non ?
Ouais.
Ouais, avant l'interview, on va passer quand même un petit bol d'air, on va passer Rossé, et le titre s'appelle Ce que personne n'entend vraiment. Voilà.
Trêve de blues.
Et il passe même sur France Info, Rossé, alors.
De trompettes bouchées, de folies claquant des pieds à la satisfaction du rythme. Trêve de séance attend le swing autour de ring, qu'énerve des cris de fauve. Trêve de lâchage, de léchage, de lèche et d'une attitude d'hyper assimilé, trêve d'un instant d'une vie de bon enfant et de désir et de besoin et d'égoïsme particulier. Pourquoi on vient pas danser, on sourit pas, arrête. Pourquoi on reste dans notre coin avec ou sans l'assiette. J'ai créé un froid, c'est rien, ça a cassé la fête. La prochaine fois, faudrait brûler la fête. Ils écoutent la musique ethnique avec leur sap ethnique. On se croirait à Ethnicland, c'est véridique, je me demande. Ce pays n'existe qu'ici où les fantasmes abondent. Ils l'ont construit brique par brique, voudraient que je m'y rende. Mais quand ils partent vraiment dans un de ces lieux du moment, ils se plaignent du changement face au délire de leurs pensants. Alors ils recommandent soirée sur thème d'Orient où tout le monde applaudit ce que personne n'entend vraiment. Laisse-les danser avec leurs t-shirts Che Guevara et Abou Jamal. La fashionnerie prend sa source dans ce canal. La misère et de l'antimaille, puis s'inscrit sur t-shirt de Bourges à la santé du capital. Le tiers-monde est mauvais, mais t'y étais cet été. Montrons ton bon côté, ta monnaie pour ton bis de djembé. Vive leur peu d'ailleurs, vive leur révolution. À vivre un peu loin de plus proche de ta télé. Beaucoup de métèques dans ce jeu aiment être le talisman. Des ethnophileuses et ethnophileux en mal d'Orient. Chacun y trouve son compte et au bout du compte c'est si bon que tout le monde applaudisse que personne n'entend vraiment. Regarde l'autre qui parle plus qu'il pense, il séduit. Car il a le poster de Fela et l'autographe de Femi. Grâce à son assurance, tout le monde bloque sur son récit. Son débit sympa, son avis d'expert réduit. Réduit à ça, il tire monde, la critique reste de bronze. Les conneries abondent, se vendent surtout après le 11. L'islam en baisse, c'est l'air immonde. Les lumineux plateaux des songes où l'audimat étrange. Conneries et mensonges. Dans cette saveur d'amour-haine, les livres prennent leur élan. Certains mots font peur, la peur fait l'argent. Le savoir file horizon, stoppé par cette queue de poisson. Tout le monde applaudit ce que personne n'entend vraiment. We'll be right back. consommer et se consumer sont devenus les seuls drames. Des pays riches qui s'emmerdent dans leur monde en hologramme. Seul souci, trouver une identité palpable, loin de leur vie plastique taillée dans un pseudo-drame. Génération télé.com, mal d'identité. Chacun veut être son propre héros dans un succès. À faire rêver, un drame à faire chialer, parce que les seuls besoins sont que des plaisirs à couver. Bien loin de là, les feux, les guerres, les sangs, projetés dans l'arène plasma apaisent nos distractions. C'est de l'autre côté de l'écran, l'autre bout des continents. Tout le monde applaudit et personne n'entend vraiment. Avec ma tête de métèque, j'attire les ethnophileux. À défaut d'attirer les envieux, les ventes, les skyroqueux. Ils me veulent comme leur biftech, à force d'être horripileux, de converser avec des malotreux. Du haut de leur école de commerce, disent comment je dois être heureux. Pour eux, mon rap est boutonneux, ma serre dans son but sérieux. Trop rugueux face à un public heureux, personne ne voudrait rentrer dans le jeu. Et quand changera le vent, ils me diront, mec, sois plus militant. Maintenant que les gens veulent du grand, du hardcore, du conscient. Ce qui fait peur, c'est que dans un sens, ils ont leur raison. Vu que tout le monde applaudit, ce que personne n'entend vraiment.
C'était Rossé. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne. Et vous pouvez aussi nous écouter sur internet www.radiodio.org. Et là, c'est l'émission Papillon. C'est
en direct.
Voilà, en direct jusqu'à midi. Normalement, c'est le premier dimanche du mois. Mais, et avec une rediffusion le vendredi matin suivant. Bref, voilà. Donc, nous allons enchaîner avec quelque chose qui s'est passé le 30 janvier 2010. Nous étions devant le centre de détention à Roanne, le nouveau, tout beau. Voilà, et bah, c'est tellement beau et tout neuf que bah, y a des gens dedans qui font des grèves de la faim, tiens. Hein, on y vit bien en prison. Donc voilà, il y avait une prisonnière politique basque qui s'appelle Lorencha Guimon, qui était en grève de la faim à l'intérieur, et une quarantaine... deux personnes sont venues du Pays Basque pour la soutenir et protester. Et protester aussi pour tous les prisonniers, il faut le préciser. Et donc voilà, il y avait quelques personnes qui étaient venues en soutien. On était là, on a interviewé deux personnes. Donc on va tout de suite écouter ça. Et vous entendrez aussi un peu le vent, parce qu'il neigeait et puis il y avait du vent. Donc vous l'entendrez un peu dans les micros. Et j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Donc voilà, tout de suite, l'interview de Muriel, puis de Janine. Donc là, on est avec Muriel de Ashkatasuna, je ne sais pas si je prononce bien.
Ashkatasuna, c'était presque ça.
Et donc, tu es une des personnes à l'initiative de cette manif. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous êtes ici, quelle est la situation de Lorencha?
Alors, on est ici parce qu'on a une prisonnière basque à la prison de Roanne qui est en grève de la faim depuis aujourd'hui 27 jours. Elle a annoncé une grève de la faim illimitée et on est ici parce qu'on est très inquiet sur sa situation, surtout vu l'attitude de la direction de la prison qui refuse absolument d'entendre, de nous recevoir, qui laisse pourrir la situation. On a peur que ça aille à des extrêmes assez graves.
Ok, pour quelle raison est-ce qu'elle est en grève de la faim?
Alors, il faut savoir que Lorencha, elle est en lutte, comme tous les membres du collectif des prisonniers politiques basques. Ils ont annoncé une lutte d'une année, au début du mois de janvier, autour essentiellement de leurs droits individuels et aussi leurs droits collectifs et politiques. Dans ce cadre-là, elle est déjà en lutte. Après, ce qui l'a mené à faire un pas de plus et à annoncer une grève de la faim illimitée comme ça, c'est la situation particulière qu'elle doit supporter ici. C'est-à-dire qu'elle a été éloignée, très éloignée, c'est très loin ici du Pays Basque. Pour la famille, c'est très compliqué la visite. Elle est toute seule, alors qu'une des revendications majeures du collectif, justement, c'est d'être groupée au moins à plusieurs prisonniers basques, parce que ça change tout dans la vie quotidienne, on peut parler sa langue, on peut échanger, c'est plus facile pour les familles aussi de venir. Et elle a été en plus privée d'un parloir familial auquel elle et son compagnon avaient droit jusqu'à 6 mois, jusqu'à son transfert. Ils pouvaient voir leur fille tous les deux ensemble, sans lui enlever. Et pour couronner le tout, Madame Chailloux, la directrice du centre pénitentiaire de Roanne, lui a enlevé, comme ça arbitrairement, la plupart de ses permis de visite. Ce qui l'isole encore plus, parce que les visites reposent sur juste quelques personnes qui ne peuvent pas du tout venir toutes les semaines, c'est impossible.
Ok, au-delà de ça, qui est déjà pas mal, dans les mauvaises conditions, est-ce qu'elle a des conditions de détention spéciales par rapport aux autres prisonnières ?
Alors, on connaît les conditions généralement des prisons françaises qui sont, excusez le mot, dégueulasses. En plus, les prisonniers basques, généralement, on leur met un statut de DPS, ça c'est détenu particulièrement surveillé. On leur applique une surveillance spéciale qui comporte plein de mesures. Par exemple, une surveillance spéciale à l'intérieur de la prison, des mesures restrictives par rapport aux autres prisonniers qui sont pas mieux lotis. Le but, c'est pas de monter les uns contre les autres ou de dire que c'est pire pour les uns que pour les autres, mais simplement, en tant que militant politique, ils ont à faire face à ça aussi. Alors, par exemple, un DPS, il a besoin d'une escorte spéciale pour n'importe quel mouvement, ce qui a entraîné beaucoup d'entraves dans les soins médicaux, etc. Voilà, entre autres, c'est des choses comme ça.
Non, et du coup, en fait, tu parlais d'une année de lutte lancée par les prisonniers basques. Est-ce que tu peux revenir dessus sur le mouvement, enfin, quelle forme va prendre ce mouvement, comment les gens vont se mobiliser à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Si tu peux préciser un peu ça.
Ouais. Alors, déjà, je vais préciser les revendications.
Ouais, déjà.
Ce qui réclame essentiellement les prisonniers basques, c'est le statut politique. Le statut politique, ça veut dire, d'une part, leur reconnaissance en tant que militants politiques. Ça veut dire, de la part des autorités, notamment françaises ici, de reconnaître qu'il y a un conflit politique au Pays Basque et que ces prisonniers-là en sont une conséquence et non pas des terroristes qui seraient la cause de tous les problèmes. La France aujourd'hui, malgré ses 160 prisonniers basques dans les prisons françaises, continue de dire que le conflit basque est un problème espagnol. Ce qui pour nous est inacceptable. Surtout vu les mesures répressives qu'ils prennent, enfin c'est incompatible le discours et les actes. Le statut politique, c'est aussi mais simplement l'application des droits. Donc c'est les droits individuels, c'est le droit à ne pas être maltraité, le droit à parler sa langue, le droit à faire des études, le droit à être soigné. Il n'y a aucun de ces droits qui est respecté. Et c'est aussi les droits politiques, c'est-à-dire d'être groupé, de pouvoir débattre, s'organiser et de pouvoir s'exprimer dans le processus politique basque en tant que collectif qui a évidemment beaucoup à dire sur ce conflit-là. Voilà.
D'accord, alors souvent on distingue en fait les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun, et puis on essaye un peu de les monter les uns contre les autres, où je sais qu'il y a une idée répandue que les gens qui veulent un statut de prisonnier politique, ils veulent quelque chose qui est uniquement pour eux et pas lutter sur ce qui se passe en prison en général en fait.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors, déjà, le fait de les monter les uns contre les autres, c'est souvent un petit jeu de la prison. Moi, je l'ai vécu à Fleury, par exemple. La prison, par l'intermédiaire des matones, venait nous voir à nous. Par exemple, s'il y avait un mouvement commun, ce qui était assez rare, il faut le dire, mais c'est arrivé, par exemple, avec le cas de certains suicides, etc., où il y a eu des protestations communes. Dans ce cas-là, le petit jeu de la prison, c'était de venir nous voir à nous, en nous disant « qu'est-ce que vous faites avec ces racailles ? Vous n'avez rien à voir avec elles, vous avez un niveau bien supérieur, etc. » Et à elles, en leur disant « attention, c'est des terroristes, elles tuent des enfants, elles tueront vos enfants, etc. etc. » Donc ce petit jeu-là, il est connu. Après, Il y a ce débat-là, évidemment, parce que quand on demande le statut politique, évidemment, on ne lutte pas pour tous les prisonniers. Nous, ce qu'on répond à ça, c'est qu'on ne peut pas lutter à la place des gens. S'il y a un mouvement dans la prison, évidemment que les prisonniers politiques seront solidaires. On ne peut pas enlever de l'histoire quand même qu'ils ont une histoire particulière, parce que sans ce conflit politique-là, ils ne seraient pas prisonniers. Voilà, c'est ce qu'on demande avant tout, à être reconnu. Après, évidemment qu'on est solidaire des autres prisonniers, évidemment qu'on mesure la misère qu'il y a dans les prisons, que c'est un système qui mène à rien, qui est dégueulasse, et qui sert juste à cacher les problèmes, à bien les cacher derrière des grands murs, comme ici, où on ne veut pas nous recevoir pour nous parler, et que la situation des autres prisonniers, elle n'est pas plus brillante que celle des politiques, évidemment.
Enfin, ouais, je fais une petite parenthèse, mais en plus, c'est vrai que j'ai entendu des histoires souvent où quand il y avait des mouvements en prison, les Basques faisaient exprès de se mettre au mitard pour bloquer les mitards en solidarité avec les autres. Je sais plus exactement où ça s'est passé et quand, mais je sais que ça, c'est des histoires qu'on a déjà entendues et qui sont déjà passées, quoi. Ouais.
Alors là, on revient aux formes de lutte qu'on a en prison. Je vous ai parlé des revendications sur la façon de les mener. Une des façons de lutter en prison, c'est quand c'est possible de bloquer le mitard. Ça, c'est des choses qu'on avait faites à Fleury. Côté femmes, il y avait 10 cellules, on était plus de 10. Donc, c'était un des moyens de pression sur la prison, d'entrer au mitard, de refuser d'en sortir. C'est très dur, personnellement. Physiquement, moralement, c'est très dur. Après, tous les moyens de lutte qu'on a en prison, c'est toujours comme ça. La grève de la faim illimitée de Lorencia aussi, elle est très dure. Voilà, sur cette lutte-là en particulier, il y a eu différentes façons. En fait, le programme qu'ils ont annoncé pour le mois de janvier et février, c'était des thèmes différents chaque semaine. Parce qu'à partir de cette revendication générale, ils ont souligné des revendications particulières plus précises. Par exemple, qu'on libère immédiatement tous les prisonniers qui sont gravement malades et incurables. Aujourd'hui, il y en a 7 prisonniers basques en prison qui sont pas en condition de se soigner et dont la loi devrait normalement permettre la libération immédiate. Il y a beaucoup de prisonniers qui n'ont pas été libérés, ça surtout en Espagne, bien qu'ils aient fini leur peine. Et certains ont fini leur peine depuis longtemps, là il y en a une quarantaine. On exige aussi, le collectif dedans et nous dehors, la libération des prisonniers qui remplissent les critères de la conditionnelle. Ça aussi il y en a plein et il y en a quelques-uns en France qui atteignent leur 20e année, qui remplissent ces critères-là, et à qui il n'y a que des fins de non-recevoir. Après, les revendications particulières, c'est la fin de l'isolement et la fin de la dispersion. Donc sur ces thèmes-là, il y a eu des actions différentes. Il y a eu une première semaine de communication où ils ont prévenu, expliqué leur lutte. La semaine suivante, ça a été, si je me souviens bien, des rassemblements dans les cours de promenade. La semaine suivante, ça a été ce qu'on appelle Ichialdi, c'est-à-dire qu'on refuse de sortir de sa cellule, on ne sort pas de sa cellule. Donc ça, en France, ça reste assez symbolique, mais il faut savoir qu'en Espagne, les prisonniers sont obligés de sortir de leur cellule tous les jours. D'accord. Il leur faut une autorisation spéciale pour y rester, donc là, ça devient un acte de désobéissance plus intensif. Et cette semaine-là, ils sont en grève de la faim, là, sur le thème du statut politique et des droits en général.
D'accord, donc il y a plusieurs prisonniers basques en France et en Espagne qui sont en grève de la faim.
Voilà. Bah, est-ce que tu veux présenter plus précisément Ashkatasuna et le collectif des familles de prisonniers?
Ashkatasuna, pour notre part, c'est le mouvement anti-répressif basque, c'est-à-dire qui a pour but de dénoncer tous les actes de répression qui se passent à l'intérieur des prisons ou à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y en a beaucoup parce que de plus en plus, ces dernières années, la France a mis en place une politique de harcèlement des militants, avec des montages policiers, avec des rafles, avec des surveillances étouffantes, etc. C'est aussi de soutenir les prisonniers basques et les réfugiés politiques basques, qui sont aussi très nombreux et dans des situations très précaires. Et le dernier axe de travail, c'est de pousser le plus possible pour qu'il y ait une résolution politique, pour qu'on passe d'un système tout répressif où on nie l'existence même du conflit
à une reconnaissance de ce conflit et un dialogue.
Est-ce que tu peux revenir sur la situation de justement Yonanza? On en a un peu parlé dans la presse, du coup, si tu peux expliquer un peu plus en détail.
Alors ça aussi, c'est une grosse revendication du collectif aussi.
Et on entendait des slogans...
Alors Yonanza, c'est un militant basque qui a disparu au mois d'avril dernier. Alors c'est en plus, lui, il avait une histoire particulière parce qu'il avait fait 21 ans de prison en Espagne comme militant de TA. Il était sorti depuis 3 ou 4 ans et un beau jour d'avril dernier, il a pris le train entre Bayonne et Toulouse. Il n'est jamais arrivé à Toulouse et il n'est jamais revenu. On a fait une conférence de presse pour dénoncer sa disparition avec sa famille qui a annoncé qu'elle avait déposé une plainte. On a vécu au Pays Basque des moments de ce qu'on a appelé la guerre sale, avec le GAL, etc. Vous savez à quoi je fais allusion. Donc nous, aussitôt, on a pensé à quelque chose comme ça. Ouais. Et puis petit à petit, sont sorties des informations. D'abord, un communiqué de l'ETA qui disait que Yonanza était un de ses militants, qu'il avait rendez-vous avec eux et qu'il n'est jamais arrivé au rendez-vous, ce qui confirmait qu'il avait disparu sur le voyage. Puis, dans un grand quotidien basque qui s'appelle Gada, qui disait que selon certaines sources, il aurait été tué par la police espagnole sur le territoire français. Ça se confirme apparemment cette semaine avec la sortie du livre d'un journaliste qui se présente comme un expert du Pays Basque, etc. Qui cite le corps de police, qui cite les sources de Gada. Et qui confirme qu'on a vraiment affaire à une histoire comme ça, ce que nous, on dénonce depuis le début. Là-dessus, comme pour tout le reste, la seule réponse qu'on a, c'est du mépris total, notamment de la part d'Aliomari, qu'on interpelle beaucoup au Pays Basque, qui tient un discours qui est le même que celui du ministre espagnol, c'est-à-dire que Yonanza s'est enfui, qu'il était censé apporter de l'argent à l'ETA, qu'il est parti avec l'argent, ce qui est strictement impossible. Le connaissant le genre de militant que c'est, et en plus sachant qu'il était atteint d'une grave maladie, d'une tumeur au cerveau, qui rend impossible ce scénario-là. Mmh. Voilà. Après, il y a une autre chose à ajouter sur Yon, et ce qui nous a fait tout de suite penser à des actes de guerre sale, c'est que c'est pas un acte isolé. Il y a d'autres militants qui n'ont pas disparu, mais qui ont, et ça des deux côtés de la frontière, qui ont dénoncé avoir été enlevés pendant quelques heures, par des gens qui se présentent comme des policiers espagnols, ou du côté français, c'était des gens qui s'étaient présentés comme des policiers français, mais qui parlaient en espagnol, enlevés, menacés, terrorisés, ça on peut le dire, et pour certains, frappés et torturés. Et le but, c'était d'obtenir de leur part un engagement à collaborer, à donner des informations, etc. Chaque fois, ils ont été relâchés, à Barionne. Ils ont été relâchés, ils ont témoigné de ça. Ils sont déjà presque une dizaine à avoir fait des témoignages comme ça sur l'année qui vient de s'écouler. Donc c'est dans cette ambiance-là aussi que se produit la disparition de Yon, et c'est extrêmement grave et extrêmement inquiétant.
Pour revenir sur vos mobilisations et vos luttes, est-ce que, de quelle manière en fait, à part ce que tu as déjà dit, de quelle manière est-ce que vous luttez à l'intérieur comme à l'extérieur? Quel genre d'action, comment vous menez à bien la solidarité, tout ça?
Alors à l'intérieur, c'est ce que je disais avant, c'est toujours des actes de désobéissance vis-à-vis de la prison et qui ont toujours des conséquences assez graves selon l'intensité de... Parce que le châtiment, il vient assez vite en général. À l'extérieur, on se mobilise le plus possible. La mobilisation la plus systématique, c'est un rassemblement qui a lieu dans énormément de villages et de quartiers du Pays Basque tous les derniers vendredis du mois pour les droits des prisonniers. Et après, ponctuellement, il y a des manifs ou il y a d'autres styles d'action. Il y a aussi un gros travail d'interpellation des élus, des acteurs politiques et sociaux qui est mené tout au long de l'année, avec plus ou moins d'intensité selon l'actualité. Mais par exemple, sur l'Olencha, il y a un groupe qui se met en place pour aller interpeller le maire de son village, etc. J'ajoute que ça concerne le Pays Basque Nord, qu'au Pays Basque Sud, Askatasuna, comme le parti politique Batasuna a été illégalisé, ce qui rend très difficile les mobilisations, qui sont réprimées d'une façon très violente. Et beaucoup de nos militants sont en prison pour le simple fait d'appartenir à Askatasuna, y compris certains porte-parole qui ont été condamnés à 10 ans. C'est-à-dire qu'aux yeux de l'Espagne, soutenir un prisonnier, c'est faire l'apologie du terrorisme et c'est faire partie de l'ETA. Quels sont les prétextes utilisés pour les chefs d'inculpation en fait, pour arrêter toutes ces personnes et les mettre en prison quand tu dis juste sous le prétexte qui serait de l'ETA ou proche de l'ETA?
Mais ça, c'est une théorie qui a été mise en place par le célèbre juge Garzón en Espagne, qui passe pour un héros à cause de ses actions au Chili. Nous, avec ce qu'on constate, c'est loin d'être un héros au Pays Basque, parce que, entre autres, comme tous les juges de l'Audience Nationale de Madrid auxquels on a affaire, qui cautionnent la torture qui est encore systématique en Espagne pour l'arrestation des militants basques. Après, dans ce collectif, il y a des militants de l'ETA, évidemment, mais il y a aussi de plus en plus plein de militants politiques d'organisations illégalisées. Il y a des gens qui ont filé un coup de main, il y a des jeunes qui ont été arrêtés pour ce qu'on appelle la calebroca, c'est-à-dire la résistance de rue. Le prétexte, la théorie de Garzón, c'est que tout ce qui est basque, c'est ETA. C'est ce qui l'a conduit, par exemple, à fermer des médias basques, à arrêter la direction d'un journal basque qui s'appelle Egunkaria. Cette direction a été aussi torturée, incarcérée. Il y a le journal, il y a Askatasuna, il y a le parti politique Batasuna, il y a l'organisation de jeunes Chegui. Tout ça, pour eux, c'est ETA, et ça suffit pour les jeter en prison et pour leur faire des condamnations, en plus, bien énormes. Sa dernière cible, en ce moment, ce qui envoie d'illégalisation, c'est l'association des familles.
Ouais.
D'accord.
Parce que, tu disais, si tu soutiens un prisonnier, t'es toi-même terroriste.
Voilà, c'est ça. On a par exemple un porte-parole qui est assez connu de Batasuna au Pays Basque Sud, qui s'appelle Arnaldo Otegi, qui a eu ces deux derniers, qui est en prison, qui a eu ces derniers jours un procès parce qu'il a participé à un hommage à un prisonnier qui a une situation particulière parce qu'il est aujourd'hui le plus ancien prisonnier politique d'Europe. Il va faire 30 ans en juillet prochain. Il fait partie de ceux qui n'ont pas été libérés à la fin de leur peine. Il y a eu un acte de soutien à ce prisonnier-là. Ça suffit à jeter quelqu'un en prison en disant que c'est un terroriste. Voilà.
Vraiment, en tout cas, ce que je voulais ajouter, c'est que je trouve ça hyper chouette de voir, des dizaines de personnes qui viennent de super loin pour soutenir.
Vous êtes venus à combien, justement?
On est venus à une quarantaine, et il y a des militants d'ici qui nous ont rejoints, donc je pense que là, on est entre 50 et 60.
Ouais. Et vous êtes venus de?
On est venus, moi, de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Ouais.
Une halte à Bayonne, on est parti de Bayonne à 10h.
D'accord.
Ouais, c'est vraiment chouette. Ah non, j'espère qu'elle entend.
Moi aussi, j'espère de tout mon cœur qu'elle entend. Ouais.
Elle a au moins entendu les gros pétards.
Ouais.
Bon voilà, merci à toi.
Ouais, merci à vous d'être là.
De rien. Et puis bon courage pour la suite.
Merci. Donc.
Zu atrapatu arte, ikurrez madarikatua. Ez duzu inoiz ezer ulertuko. Zuretzat kalean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. Gazte bat zitzen da, atrakoak, ikete terrorista bat, denak, paperetan daude, zu, atrapatu arte, ikurrez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. Ikurrez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besteen arazoak dira.
Donc bonjour Janine. Vous, vous faites partie de l'association des familles de prisonniers politiques basques, c'est ça?
Oui, on est organisé. On a déjà dû vous le dire, mais il y a 750 prisonniers, enfin plus ou moins 750 prisonniers politiques basques sur Pays Basque Sud et Pays Basque Nord, et on est tous regroupés dans une association qui s'appelle Etxerat.
Qui veut dire
Etxerat, ça veut dire à la maison, on les veut à la maison.
À la maison. C'est-à-dire à la maison, à la maison ou dans les prisons basques?
Non.
À la maison.
À la maison.
Ah, parce que je me demandais. Non,
mais vous faites bien de poser la question. Ouais. Ça me permet de préciser. Non, on les veut à la maison. Mmh. On ne demande pas que le rapprochement.
Ouais, bien sûr,
on
ouais.
demande l'amnistie et la résolution du conflit politique par le dialogue.
Mmh. D'accord.
Voilà. Okay. C'est ce qu'on appuie en tant que famille aussi.
Mmh. D'accord.
Et comment vous mettez ça en œuvre? Quel genre d'action vous faites? Comment vous faites le lien aussi avec les prisonniers qui sont à l'intérieur?
Alors le lien, il est fait par le biais des visites et du courrier. Alors les visites, une grande partie des familles, je ne vais pas dire toutes parce que ce n'est pas possible pour toutes, mais on essaie d'assurer une visite hebdomadaire à chaque prisonnier basque. Voilà, et ça nous permet là de garder le lien avec l'extérieur. Essayer de maintenir les liens familiaux, amicaux, et voilà, mais c'est très difficile. On ne se fait pas d'illusions sur la qualité de ce que l'on arrive à garder, mais ils savent qu'on est là et voilà, et qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls.
Est-ce que l'administration pénitentiaire vous cause des soucis particuliers? Déjà pour les familles, c'est jamais évident, mais...
Alors, tout dépend. Actuellement, on est sur 38 prisons françaises, pour ne parler que de l'État français. Et je vais surtout parler de ça. Alors, il y a des prisons dans lesquelles ça se passe relativement normalement. Quand il y a des problèmes, par exemple, comme le problème que l'on connaît aujourd'hui ici avec Lorraine Chaguimont, jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à obtenir un rendez-vous avec la direction, et pas du jour au lendemain, mais à obtenir une solution aussi au problème qui était posé. Alors ici, aujourd'hui, c'est très particulier. On est déjà venu il y a 10 jours ici sur Roanne. On a donné une conférence de presse, on a essayé avec et l'association de soutien aux prisonniers Ashkatashuna et l'association des familles d'obtenir un rendez-vous avec la direction. Bon, ça a été refusé. Donc de Bayonne, on n'avait rien obtenu. On est venu ici sur place, j'ai réessayé moi ici au téléphone, refus de communiquer. On a envoyé un courrier, nous, au nom de l'association, en disant qu'on serait là aujourd'hui, qu'on ressollicitait un rendez-vous. Pas de réponse. Là, je viens de voir le policier qui semble coordonner ici toute la surveillance, qui s'est chargé de faire le lien aussi. Donc, il a demandé 2 fois et la direction nous répond, Madame Chaillou nous fait répondre, que les solutions ne lui appartiennent, qu'elle ne peut pas répondre à nos demandes, que ça se passe à un autre niveau et donc elle ne nous recevra pas. Et elle a dit aussi à un journaliste qui l'avait interpellé qu'elle avait interdiction de communiquer avec nous.
D'accord, donc en fait la directrice d'une prison n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe, sur le sort qu'on fait à ses prisonniers.
Voilà, ici ça semble être le cas, mais je pense que comme la prison est neuve, les règles aussi ont dû être rénovées. Parce que bon, moi ça fait 8 ans que je suis mère de prisonnière et j'ai eu l'occasion de rentrer à Fleury-Mérogis, qui est quand même une prison assez importante. On a été reçus à 2 reprises par les directeurs, qui étaient Monsieur Katz et Monsieur Barat, et qui nous ont reçus. Ça a été des entretiens d'1h30, on a tout posé sur la table et on est toujours arrivé à trouver une solution. Pas toujours celle qui nous satisfaisait pleinement, mais la volonté de part et d'autre de régler le problème ou le conflit qu'il y avait. Ici, c'est vraiment très, très particulier. Alors, on parle de l'humanité de Madame Chaillou, on nous en a beaucoup parlé. Moi, je la mets en doute maintenant. Mais ici, aujourd'hui, on va continuer à informer les Rouennais de ce qui se passe ici. Je crois qu'on est tous responsables, de toute façon, de ce qui se passe. Et nous, et vous, et les autres. Et voilà, et après, quand on va rentrer à la maison, je pense qu'on se fera beaucoup plus pressant et pressante auprès de leur ministre de tutelle, voilà, qui vient quand même souvent au Pays Basque, qui a investi les lieux.
Elle est du Pays basque, Lyon-Marie, non ?
Enfin, pour moi, elle n'est pas basque, mais elle a un appartement secondaire au Pays basque. Ouais. Et voilà, c'est une famille qui est très très bien implantée, et dans l'immobilier, et dans tout. Voilà, ce sont des gens qu'on pratique depuis très très longtemps. Mais comme Madame Ayotte-Marie vient régulièrement à Saint-Jean-de-Luz pour aller à la messe.
C'est la bourgeoisie locale.
Oui, c'est. Oui. On peut l'appeler comme ça. On peut l'appeler comme ça. Et bien pensante et malfaisante.
En plus.
Voilà. J'assume.
Ouais. Je pense pas qu'elle écoutera, de toute façon. Malheureusement.
Et.
Ouais, voilà.
Moi, j'ai une question un peu plus large, en fait. Vous disiez, donc là, ça semble un peu différent parce que c'est dans une nouvelle prison. Est-ce que vous avez l'impression, enfin, est-ce que vous voyez des différences entre ce qui se passe dans ces nouvelles prisons et dans les autres? Parce qu'on nous les présentait comme des prisons modèles, en fait. Elles seraient neuves, ce serait confortable, ouais. Et la vie serait toute rose.
Oui. Je ne peux pas trop en parler, on n'a pas encore assez de pratique de ces prisons neuves. Nous, on est proche de Mont-de-Marsan, qui vient d'ouvrir aussi, qui a ouvert après celle-ci. Et il y a déjà eu 6 suicides dedans. Alors moi, je pense que les gens sont tellement heureux que ça devient insupportable. Donc, ils n'ont pas d'autre moyen pour fuir autant de félicité. Nous, ce qui nous inquiète, c'est de voir que le système s'américanise, donc se déshumanise. Et ça, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est ce que nous disent les prisonniers. Qu'ils nous disent tous, de plus en plus de violence, de technologie et de violence. C'est un processus d'élimination là, qui est engagé et contre lequel, moi, il me semble qu'on doit tous résister et ne pas se laisser abuser par ces murs, là, on dirait une clinique aseptisée là, quand
ouais.
on arrive.
Ouais, bien sûr. Et là, ce genre de rassemblement, là, comme il y a ce matin devant le centre de détention de Rouen, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ça ailleurs, que ce soit côté français ou espagnol?
Alors très souvent, et il y avait, je veux dire, une tradition, mais pendant des années, entre Noël et le premier de l'an, on organisait des bus sur Paris, nous. Donc on faisait des prisons de Fleury-Mérogis, Fresnes et La Santé, parce que c'est surtout là qu'étaient concentrés les prisonniers. Et dans les prisons espagnoles, il y avait des dizaines de bus qui partaient avec des familles et des amis, et qui allait marquer la fin d'année avec musique, chant. Voilà, ici aujourd'hui, il nous manque les musiciens, ouais. Mais normalement, tout est prévu.
Ah, il y a les orchestres voilà. qui se déplacent.
Et on fait ça maintenant pour la fête de la musique. Comme ce jour-là, on peut faire de la musique partout. Au Pays Basque Nord, cette année, on était à La Neumeza. Donc voilà, on a été donner un petit concert devant la prison de La Neumeza. Mais les déplacements, la solidarité, elle s'exprime très, très régulièrement. Et on est au minimum 2 fois par mois dans la rue pour manifester pour les prisonniers. D'accord. Minimum. Moi, je crois que c'est très bête, c'est très basique, mais c'est vraiment l'union qui fait la force. Et moi, je crois que chaque fois qu'on arrive à monter un collectif, on avance. Et ce que l'on gagne là, on le gagne aussi pour les autres. Moi, au niveau de la situation des prisonniers basques dans les prisons, par exemple, je vais parler du point de vue des familles, on a obtenu même dans une prison comme Fleury-Mérogis à ce que les parloirs doubles soient beaucoup plus importants, sachant que sur semaine, nous est impossible de venir, mais le samedi, et tout ça, ça a été une lutte des prisonniers à l'intérieur, une négociation après avec la direction, mais on obtient quand même que dans le maximum des cas, les visites puissent être doubles. Parce que pour certains, c'est 2000 km quand on vient de Bilbao ou d'Iruña. Enfin, il faut, on part la veille. Et ça, on a obtenu ces choses-là.
D'accord.
Donc, il y a des choses qu'on peut obtenir. Il y a des choses qu'on peut obtenir. Voilà.
Donc,
merci.
Merci. Mais, ouais, merci à vous. Votre soutien pour nous est très, très important.
Ouais.
demain.
Tant mieux, c'est le but.
Ouais, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5. Donc là, en fait, on vient d'entendre ces deux petites interviews de Janine et Muriel. Et je voulais juste faire une petite précision. C'est qu'à un moment, dans l'interview de Muriel, elle parle de guerre sale et elle parle du GAL. Alors, je vais préciser vite fait ce que c'est. En fait, le GAL, c'était le groupe antiterroriste de Libération. En fait, c'était une milice espagnole, para-étatique, paramilitaire espagnole, qui recrutait à l'époque des services spéciaux, les services spéciaux espagnols, la Guardia Civil, qui est un peu à peu près l'équivalent de la gendarmerie, et qui recrutait aussi dans la police nationale. Donc en fait, le GAL, il est intervenu pendant justement ce qu'on appelait après la guerre sale, en gros de 83 à 86, où à cette époque-là, l'Espagne reprochait en gros à la France sa passivité vis-à-vis des membres de l'ETA, et notamment elle reprochait à la France de protéger des militants du Pays Basque Sud, c'est-à-dire du Pays Basque espagnol, sur le territoire français, et de rien faire pour les choper. Donc il y a cette milice para-étatique qui a été créée. Alors on a reproché après au GAL, d'ailleurs c'est avéré, hein, plus de 27 morts exactement, beaucoup de blessés et une quarantaine d'attentats. Et justement, ces milices espagnoles frappaient sur le territoire français. Voilà. Après, j'ai quand même du mal à croire que la France ne le savait pas. Enfin bon, bref. Et du coup, alors la fin du GAL, justement, ça date de 86-87, avec l'arrivée de Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur. Et là, il a collaboré avec l'Espagne, pour essayer de choper ces membres de l'ETA qui étaient sur le territoire français.
Mais voilà. Ça fait des gros scandales en Espagne, cette affaire du GAL, et le Premier ministre de l'époque, il en a perdu sa place, hein, Felipe González.
Oui, c'était un socialiste en plus.
Il a perdu les élections avec ça, parce que été... quand les Espagnols ont découvert ce truc, ils ont tué des gens, quoi. Donc ça fait vraiment un gros scandale.
Oui,
Il luttait surtout en fait ce que tu disais le TA, mais il y avait aussi un groupe armé en Pays Basque français. Je sais pas le nom exact, mais c'est là où justement il y avait Gabi Muesca qui a été longtemps président de l'OIP et Arnaldo Otegi, je crois qu'il a fait de nouveaux scandales. Enfin, ils ont fait tous les deux beaucoup de détentions et justement ils luttaient aussi contre le GAL, luttait justement et de formation de lutte armée à l'époque.
D'accord.
Et pour donner un petit peu des nouvelles de Laurencia Guimon, donc finalement, elle a été transférée à Rennes début février et le 13, elle a arrêté sa grève de la faim. Donc ça n'a pas été non plus assez simple pour elle, parce qu'au début, elle n'était pas surveillée par des médecins et donc elle ne voulait pas arrêter sa grève de la faim. Et puis finalement, elle a été suivie et elle a arrêté. Donc elle se retrouve à Rennes où il y a d'autres détenus basques. Alors c'est sûr que c'est pas un rapprochement familial parce qu'elle est du sud, mais elle est avec d'autres Basques et du coup des covoitirages pourront s'organiser et puis elle est plus seule, quoi. Voilà.
Mais quand même, elle est super loin et elle demande le rapprochement et
elle est encore plus loin.
Super loin, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Elle aurait pu militer à l'ARB, l'armée révolutionnaire bretonne, elle serait plus près.
Alors juste pour préciser aussi, la musique c'était Cortatu, c'est pas très original, mais c'est un groupe basque, voilà.
Qui avait joué devant une prison, non, justement.
Absolument, je crois qu'Alex Dimanche nous avait fait une petite parenthèse là-dessus.
Est-ce que devant la prison.
Sur les murs de la prison.
De la prison.
Carrément, quoi. Ils devaient être gros, les murs.
Tout à fait.
Voilà, en tout cas.
D'Iron et de Bilbao, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Il faut que je retrouve la vidéo.
Ouais. Donc voilà, en tout cas, ce que nous on avait trouvé chouette dans cette manif, c'était cette solidarité en fait qu'il y a avec les prisonniers, le fait que 40 personnes se bougent juste pour aller soutenir une personne en lutte à 700 bornes de chez eux. C'était quand même un moment assez fort.
Bah là, on a une sacrée leçon à prendre, hein, les Stéphanois, sur la mobilisation des personnes, parce qu'elle parlait qu'ils faisaient des rassemblements tous les mois. C'est quand même vachement balèze.
Ouais, mais nous, il n'y a pas de militants du Forest Libre encore emprisonnés.
Ouais, mais il y a plein d'autres militants.
Ouais. Voilà, bref.
Il n'y a pas que la politique dans la vie.
Une belle leçon de soutien. Voilà. Donc, on va enchaîner avec encore du punk rock. On va écouter un morceau de la fraction groupe de punk rock parisien. Et la chanson qu'on va écouter, elle s'appelle Juste. Elle parle de la prison, de lutter contre la prison et de soutenir les prisonniers. Alors, si j'ai bien compris, le texte, il a été écrit ou il est inspiré d'un texte d'Eliette Bess, qui elle-même a fait pas mal de prisons en tant que membre d'Action Directe et qui soutient toujours d'ailleurs les membres d'Action Directe emprisonnés. On en reparlera à la fin de l'émission. Pour l'instant, on écoute cette très jolie chanson. Voilà, donc vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio et nous allons inaugurer une nouvelle rubrique, c'est la rubrique
« Ça m'énerve ».
Donc pour cette fois c'est pour ma pomme, donc la rubrique « Ça m'énerve », c'est dire un petit peu ce qui m'a énervé ces derniers jours. Alors, j'aurais pu vous parler des nouveaux décrets ou je sais pas quoi là, qui proposent... les retraités viennent faire des remplacements des instits absents. Ça m'énerve. Hein. Mais non, je vais vous parler d'autre chose de l'éducation nationale. C'est les flics et l'éducation nationale. Alors, c'est pas tout neuf. Hein, ça date déjà d'il y a quelque temps. Mais bon, quand un jeune, un mineur en plus, hein, fait une connerie, donc maintenant, les chefs d'établissement, ils règlent le problème avec l'aide de la police nationale. Donc, l'enfant est convoqué avec ses parents pour vol ou pour insulte ou n'importe quoi au commissariat. Une plainte est déposée. Donc, le môme se retrouve fiché dans l'ordinateur. Et c'est les ordinateurs qu'on garde éternellement. Donc, ça, c'est bien, dès 13 ans, ou 12 ans, ou 14 ans, bref. Les chefs d'établissement, donc, maintenant, recommandent aux enseignants ou aux gens, aux parents, de porter plainte dès qu'il y a un problème. Donc, moi, je me disais, mais c'est un truc de dingue. Parce que comment ça se fait que maintenant, les chefs d'établissement, ils n'arrivent plus à régler les problèmes avec des mômes, quoi, de 12 ou 14 ans, même si, effectivement, tout change, tout bouge. Les mômes d'aujourd'hui, ce n'est pas les mômes d'hier, mais bon, quand même. Donc, je me dis, c'est par facilité, j'en sais rien, vraiment, ça m'agace, ça m'énerve. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que maintenant, ben voilà, c'est pas rare de voir des hommes en uniforme et en casquette, parce qu'ils sont à la mode, hein, les flics, hein, maintenant ils portent des casquettes, devant les écoles, soit pour faire, je sais pas quoi, là, contrôle, soit ils rentrent pour voir les gens, quoi. Donc voilà, donc ça, je trouve ça vraiment déplacé, et je suis vraiment pas d'accord que les flics rentrent dans les écoles. Voilà, c'était ma petite rubrique. Mais... Et on va continuer un petit peu là-dessus sur la sécurité et l'école avec la vidéosurveillance.
On va faire du tourisme local. Je voulais parler d'une ville qui s'appelle Laïc-à-Marie, dans la baie de Londaine, qui vient de signer enfin le contrat local de sécurité.
Ah, enfin!
Enfin, et qui vient de créer.
Il était temps. Putain.
Et qui a voulu faire comme sa grande sœur stéphanoise, installer des caméras de vidéosurveillance. Saint-Étienne en a 60, un truc comme ça. Et la Récamarie est plus modeste, elle en installe 6. sachant que elle vient de créer une commission communale de prévention de la délinquance. Et donc après, ça va toucher progressivement le Chambon-Feugerolles, donc qui est la suite de la vallée, jusqu'à Firminy. Mais en tant que mairie PC. La mairie s'engage à les installer fin avril. Là, c'est la première de la vallée. Et donc, elle installe 6. Mais c'est des caméras de vidéoprotection. Et pour
Attends,
lutter...
excuse-moi, tu crois encore que... Parce que c'est PC, normalement, il ne devrait pas y avoir de caméra. Tu vas pas me dire que tu as encore ces illusions qui ne sont pas sécuritaires. Et...
Bah, quand ils sont dans l'opposition, c'est leur cheval de bataille d'être contre.
Mais oui,
quand
oui, surtout.
Ils sont plus dans l'opposition.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit dimanche, en fait. C'est que, sans citer le maire, en fait, fait souvent des pamphlets anti-sarkozistes dans le journal local en disant en lutte, en permanente. Et presque, il s'insurge et t'es presque à lancer des pavés avec lui. Mais bon. Et donc, il installe 6 caméras de gauche et de vidéoprotection, voilà, parce qu'on se sent de plus en plus en insécurité.
C'est la version de gauche, ça, la vidéoprotection.
Ouais, ouais, pas vraiment, en fait, le terme vidéosurveillance n'existe plus, même à Saint-Étienne de partout, c'est vidéoprotection, ça fait mieux.
Ah ouais, c'est
et, mais il veut avant tout que ça soit un outil de prévention, donc il se plaint qu'il n'y a plus de police de quartier et tout ça. Et donc voilà, il va installer ses 6 caméras, bon, je vous passe la place où elles seront installées, c'est pas très intéressant. Mais il faut savoir que le maire a dit que les libertés individuelles seront quand même préservées. Le public sera informé de l'existence de ces caméras. Les enregistrements seront détruits au bout de 15 jours. Et la visualisation des images se fait par une personne habilitée par la préfecture. En gros, il n'y aura pas tout le temps un gugus devant qui va vous regarder. Tu pourras aller chercher les clés en mairie. En gros, c'est ça. Évidemment, qui a gagné la palme de l'installation, c'est l'entreprise Forclume. Et donc, j'ai fait des recherches. L'entreprise Forclume est une filiale de Eiffage, qui est aussi connue le lien avec l'enfermement pour la construction de centres de détention, peut-être de PM et compagnie. Donc, c'est eux. Et le coût est quand même assez énorme pour la commune parce qu'il est de 90 000 euros pour 6 caméras et de 11 000 euros juste de frais de maintenance sur 5 ans.
Donc, c'est un marché juteux.
C'est un marché juteux.
Et peut-être qu'ils les font fabriquer par les taulards, les caméras.
Ça se peut. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller farfouiller sur le site de la mairie. Je ne sais pas ce qu'il est le truc où on vous dit les libertés individuelles seront maintenues et tout ça. Mais bon, voilà, ça m'énerve aussi. Et puis Ben voilà, jeune sauvageon Rick Amandois, faites attention, le maire et Big Brother te regardent.
Ceci dit, justement, pour savoir, tu disais que c'était pas intéressant, mais ça peut l'être, pour savoir où Big Brother te regarde, le nom de la place où...
Ah, où tu veux que je cite, la place Michel Rondet, c'est la grosse place, Rick Amandois, la place de l'église.
Non, c'est toujours...
c'est à côté de l'église. La place Raspail, je sais pas où c'est. D'accord. Je crois que c'est pareil.
C'est non, c'est toujours bien de savoir où sont les caméras. Quoi.
La salle Louis d'Aquin, parce que c'est le lieu culturel, et il y a souvent des violences et tout ça.
D'accord.
Et le Moncel, c'est une sorte de quartier chaud, en fait, mais qui est plus en destruction, hein, machin. Mais il y a beaucoup de jeunes qui font des runs et qui brûlent des voitures. Donc autant le surveiller.
Ce qui est énervant avec ces histoires de caméras, c'est que ça passe vraiment dans les mœurs, quoi. L'autre jour, j'étais dans un troquet, centre-ville, hein. Le mec, il a 3 caméras à l'intérieur du troquet, avec son petit écran, et il voit ce que... Enfin, il voit quoi? Les mecs en train de boire un café, quoi. Mais je trouve que c'est ça qui est affolant, quoi. C'est que ça passe. On s'habitue à ce genre de plan, des caméras dans les rues, des caméras dans les magasins, des caméras dans les troquets, des caméras, ça se trouve dans les écoles, devant les écoles, ça y est.
Ah ben, y en a.
Elles sont posées, les flics partout. Et c'est ça qui est révoltant, parce qu'on, finalement, petit à petit, on nous habitue à des petites choses et puis on se la ramène pas sur ces détails. Mais en fait, c'est super dangereux, quoi.
Ouais, carrément. Mais même par rapport aux caméras de vidéosurveillance, ce qui est fou, on n'a pas trop de temps, mais Michel Thiolière, je crois qu'il avait installé les caméras de vidéosurveillance à Saint-Etienne, se félicitait justement du fait que bah, y a beaucoup moins de délinquance, mais les plupart des gens sont quand même pas cons, ils vont pas aller piquer des bagnoles ou quoi que ce soit devant des caméras. Donc le taux de délinquance avait augmenté dans la vallée de l'Ondaine. Et la vallée de l'Ondaine, justement, va installer les caméras de vidéosurveillance, ouais. Et bah, bientôt ça sera chaud en Haute-Loire, quoi. Et la Haute-Loire mettra de la vidéosurveillance, et bah, il faudra aller dans le Cantal.
Ouais. Il y a plein de gens là qui seront pour Barreau, il y a plein de gens là en Haute-Loire,
il y a du
beau personnel.
Après, ouais, juste pour revenir sur les deux histoires, il y a non seulement ce truc, les caméras, bah, que ça passe de plus en plus, parce que bon, il y a toujours ce truc, quelques assos qui arrive à dire qu'ils protègent les libertés individuelles, etc., machin. Donc, ouais, on a commencé par les magasins et compagnie. Maintenant, on en a en ville. Bon, ça passe petit à petit. Et c'est un peu pareil pour ce que tu disais, les flics dans les écoles, quoi. Ça, c'est des choses qui, dans les années 70,
même 80,
en fait. Même, voilà, ce serait jamais passé. Il y aurait eu un tollé. Quand les flics arrivent dans les écoles, et que ce soit les écoles, les collèges, les lycées, les universités, etc., c'est quelque chose qui tend à se banaliser. Et voilà, quoi.
Ouais, ouais. Donc ne laissons rien passer.
Ouais, ouais, mais bon, quand on. Faut être un peu plus nombreux, quoi, à rien laisser passer. Mais c'est vrai que, voilà, c'est des choses qui se font de plus en plus. Et en plus, dans les textes, c'est passé. Il y a tout qui est fait pour accroître. La collaboration entre personnel, assistant d'éducation, etc., personnel de prof, etc., et la police, quoi. Tout est fait pour faciliter. Il y a des nouvelles brigades spéciales qui sont en train d'être testées, je crois, dans les collèges, etc. Des semi-flics, semi-pions, on sait pas trop ce que c'est, mais en gros, c'est à peu près ça. Il y a des contrats aidés dans les lycées où j'ai bossé, qui étaient embauchés. Alors, en plus, c'est des mecs, c'est des galériens, quoi. C'est des mecs qui étaient, voilà, ultra précaires et qu'on embauche juste pour tourner toute la journée dans les lycées. Ils font des tours de cours, quoi, comme je faisais en sixième. Mais voilà, eux, ils font ça dans le lycée, ils tournent, voir celui qui tague, essayer de choper celui qui boit, celui qui fume à pète devant l'entrée du lycée, voilà, etc. Enfin bon, bref, tout, voilà. Et ça, c'est justifié par des faits ultra médiatisés qu'on nous ressort de temps en temps, des agressions de personnes extérieures qui arrivent dans les lycées, etc. Des choses que je pense qu'ils se sont toujours passées, ça a toujours existé. Mais on nous le fait passer par rapport à ces petits faits divers, enfin comme à peu près toutes les lois sécuritaires, de toute façon. Et voilà. Et du coup, voilà, c'est dans les mœurs et tout se passe bien.
Et donc ça t'énerve ?
Ouais, enfin bon, ouais.
Ça t'énerve pas ? Arrête !
si, non, mais ça m'énerve. C'est, oui, c'est une chose parmi tant d'autres. Et voilà, du coup, le monde qu'on nous prépare à l'extérieur ressemble de plus en plus à celui que vous avez à l'intérieur. Pourquoi ?
Oui, quelle belle conclusion.
Ouais, carrément.
Donc, l'émission touche à sa fin. On va passer à l'agenda, non ?
Ouais. Allez. Comme il a ses fournis, on va essayer d'aller vite. Moi, je voulais. Non, je sais pas faire ça. Le 20 mars, donc c'est ce week-end, aura lieu à Lyon une manifestation contre toutes les expulsions, qu'elles soient expulsions de squat, expulsions locatives, de campements de Rome, etc. Elle est organisée par la coordination des groupes anarchistes. Et oui, ça existe. Et elle aura lieu à 15h, pardon, place des Terreaux. Donc voilà, ça c'est le 20 mars. Et moi, je voulais parler aussi d'un agenda culturel. Au Firmament, le 27 mars, donc c'est le week-end encore après.
À Firmini,
ouais. Aura lieu un concert de soutien au collectif Sans Papier, qu'on avait déjà invité à l'émission. Et en gros, il y aura Le Peuple de l'Herbe, Fedaï Pacha et Soul Jay-Z.
On se demandait si Le Peuple de l'Herbe prenait un cachet. Oui, il cachetonne, il joue pas gratos.
Ah.
Dénonciation.
Comme quoi les artistes.
Non mais on se posait la question.
Donc
les
il y aura quand même, il y aura quand même une part de la soirée qui sera reversée au collectif Sans Papier et sera lieu donc au Firmament Firmini à 20h.
Voilà. Et ensuite donc ce sera à la fin du mois, le 1er et 2 avril, deux jours en soutien aux prisonniers d'Action Directe. Donc Action Directe, pour resituer, c'était un groupe, une organisation de guérilla et de lutte armée anticapitaliste dans les années 80. Donc plusieurs de leurs membres ont été incarcérés. Donc là, ceux dont on parle, les deux qui restent en fait, à ma connaissance, hein, parce qu'il y en a peut-être qui sont oubliés dans l'ombre.
Il y a Adé, aussi les Lyonnais, il y a des Lyonnais aussi qui sont encore en prison.
D'accord, en tout cas,
Scission.
Ils parlent surtout de deux d'entre eux, c'est Georges Cipriani et Jean-Marc Rouillant, qui sont en prison depuis 87, qui avaient pris perpète et 18 ans de sûreté. Qui donc aurait pu aspirer à sortir depuis 2005. Jean-Marc Rouillant, il est sorti très vite et ils l'ont renvoyé en prison très vite. En gros, s'ils sortent pas alors qu'ils pourraient les laisser sortir, c'est juste parce qu'ils refusent de renier leurs idées, en fait. Voilà.
Donc, faut préciser qu'ils sont malades tous les deux maintenant, quand même, gravement malades.
Oui, bah après, après 23 ans de prison, il y a de quoi être complètement...
Et d'isolement.
Et plein d'isolement, ouais. Donc voilà, donc en gros, il y a des collectifs de soutien aux prisonniers d'Action Directe, dont un qui s'appelle Défense Active, je crois, qui existe depuis des lustres et qui font une campagne là pendant tout le mois de mars pour que 2010 soit l'année de la libération de Jean-Marc Rouillant et Georges Cipriani. Et voilà, il y aura dans le cadre de cette campagne des trucs à Saint-Étienne le 1er et le 2 avril. Donc normalement, c'est en train de se confirmer. Le premier, ce sera dans un troquet qui s'appelle Le Misanthrope. Il y aura le film Retour sur mon parcours militant, une longue interview très intéressante de Joëlle Aubron, qui elle aussi a été incarcérée des années et des années en tant que membre d'Action Directe, qui est décédée depuis qu'elle est sortie. Et il y aura des spoken words, c'est des mots parlés, enfin des poèmes, quoi, je sais pas, et de la bouffe et tout. Et le lendemain, le 2 avril, alors normalement, ça se passera au squat Las Ferro, rue Jean Barbier. Il y aura un concert de soutien à Action Directe. Ce sera normalement avec les camionneurs du suicide et bière sociale. Voilà, ce sera très punk rock et un peu reggae.
On peut suivre tout ça sur le numéro 0 ?
Tout à fait.
Ah,
sur le site internet le numéro 0.l'autre.net.
Et juste pour préciser, de Misanthrope, c'est rue Antoine Durafour.
Voilà.
C'est ça.
Et avant de se quitter, donc il faut préciser que la prochaine émission Papillon, elle sera le premier dimanche d'avril.
Le 7, 6 ou 7 avril.
D'accord, à 17h30 jusqu'à 19h. Que cette émission-là qu'on vient de faire, elle sera rediffusée le troisième mardi du mois, donc le 16 mars, sur Radio Canu à Lyon, 102.2 FM. Notre adresse, si vous voulez nous écrire pour quoi que ce soit, remarques, critiques, compléments, témoignages, etc., c'est prenez vos stylos. Émission Papillon chez Radio Duo, 14 bis avenue de Roubaix, boîte postale 51 42 002 Saint-Étienne, CEDEX 1. Et l'adresse mail, émission Papillon tout attaché, sans accent. @riseup.net et riseup, ça s'écrit RISEUP.net. Voilà.
Voilà. Et ben, c'est l'heure de nous quitter. Du coup,
Avec une chanson spéciale.
Renaud. Ah oui, Renaud, voilà. C'est vrai. Charognard.
Voilà.
Elle est énervée, Olga.
Et du coup, ouais. Salut à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, à l'intérieur, à l'extérieur. Et juste pour Nabil, t'as le bonjour de Sophie qui n'a pas pu venir ce matin parce qu'elle travaille, voilà.
Voilà, et des grosses bises à Nabil. Et puis bonsoir, bonjour, bonsoir à tout le monde.
Et tenez-vous. Bon courage. Et à la prochaine.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charron. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles, je crève aux Champs-Élysées. Je vois la France entière du fond de mes ténèbres. Les charognards sont là. La mort ne vient pas seule, j'ai la connerie humaine.